Aujourd'hui, je vous ai choisi la pacification du vital, de l'aventure de la conscience de Satprem. Et Satprem donne le vital vrai. Nous protestons pourtant au nom de nos sentiments. Nous dirons, mais le cœur, avec une majuscule. Justement, le cœur est-il lieu plus mélangé? En outre, il s'essouffle vite, et ce serait notre troisième observation. Notre capacité de joie est petite, notre capacité de souffrance est petite. Nous sommes vite blasés par les pires calamités. Quelles eaux n'a pas coulé sur nos grandes peines? Nous pouvons peu contenir de cette grande force de vie. Nous ne tenons pas la charge, dit la mère. Juste un souffle de trop, et nous crions de joie ou de douleur, et pleurons, et dansons, et nous nous évanouissons. Parce que c'est toujours la même force ambiguë qui coule et déborde bientôt. La force de vie ne souffre pas. Elle n'est pas troublée, pas exaltée, pas méchante, pas bonne. Elle est. Elle coule, immense et paisible. Tous les signes contraires qu'elle revêt en nous sont seulement des vestiges de notre évolution passée. Parce que nous étions petits, tout petits et séparés. Et qu'il fallait bien nous préserver de cette énormité vivante, trop intense pour notre petitesse, et distinguer les vibrations utiles des vibrations nuisibles, les unes s'affectant d'un coefficient positif de plaisir ou de sympathie ou de bien, et les autres d'un coefficient négatif de souffrance, de répulsion, de mal. Mais la souffrance n'est qu'une intensité de trop de la même force, et le plaisir trop intense se change en son contraire douloureux. Ce sont des conventions de nos sens, dit Sri Aurobindo. Il suffit de déplacer un peu l'aiguille de la conscience, dit la mère, par une conscience cosmique, dans son état de connaissance complète et d'expérience complète, tous les contacts sont perçus comme une joie, ananda. Seule l'étroitesse de conscience, l'insuffisance de conscience est la cause de tous nos maux, moraux et même physiques, et de notre impuissance et de cette sempiternelle tragédie, comédie de l'existence. Mais le remède n'est pas de faire dépérir ce vital comme le voudraient les moralistes, c'est de l'élargir, pas de renoncer, mais d'accepter encore plus, toujours plus, et d'étendre sa conscience. Parce que c'est le sens même de l'évolution. La seule chose, en somme, à laquelle il faille renoncer, c'est notre ignorance et notre petitesse. Quand nous nous accrochons frénétiquement à notre petite personnalité frontale et à ses comédies et à ses viscosités sentimentales et ses douleurs sanctifiées, nous ne sommes pas vraiment humains. Nous sommes des retardés du pléthysotocène. Nous défendons notre droit à la souffrance et au chagrin. Le chercheur ne sera plus dupe du jeu équivoque qui se déroule dans son vital de surface, mais il gardera longtemps encore l'habitude de répondre aux mille petites vibrations biologico-sentimentales qui font la ronde autour. C'est un passage assez long, comme de passer du mental rabâcheur au vital, au silence mental, et à cette transition s'accompagne souvent des périodes de fatigue intense, parce que l'organisme perd l'habitude de renouveler ses énergies à la source superficielle commune, qui semble très vite grossière et lourde quand on a goûté l'autre type d'énergie. Sans avoir encore la capacité de rester continuellement branché sur la vraie source, d'où certains trous, mais là aussi, il sera aidé par la force descendante qui contribuera puissamment à établir un rythme nouveau en lui. Il remarquera même avec un étonnement toujours renouvelé que s'il fait vraiment seulement un petit pas en avant, l'aide d'en haut en fera 10 vers lui, comme s'il était attendu. Croire que c'est un travail négatif, ce serait tout à fait erroné. Le vital, certes, se plaît à dire qu'il fait de gros efforts pour lutter contre lui-même. Et c'est une façon habile de garder, de se garder à droite ou à gauche. Mais en réalité, le chercheur n'obéit pas à un impératif austère et négatif. Il suit une poussée positive de son être. Parce qu'il grandit réellement et que les normes d'hier ou les plaisirs d'avant-hier lui semblent aussi minces qu'une diète de nourrisson. Il n'est plus à l'aise dedans, il a mieux à faire, mieux à vivre. C'est pourquoi il est très difficile de faire comprendre le chemin à qui n'a pas essayé. Il n'y verra que son point de vue d'aujourd'hui, ou plutôt la perte de son point de vue. Et pourtant, si nous savions comme chaque perte de point de vue est un progrès, et comme la vie change quand on passe du stade des vérités fermées au stade des vérités ouverte. Une vérité comme la vie même, trop grande pour se lasser prendre au piège des points de vue parce qu'elle embrasse tous les points de vue et voit l'utilité de chaque chose à chaque stade d'un développement infini. Une vérité assez grande pour se nier elle-même et passer sans fin dans une vérité plus haute. Derrière ce vital infantile, inquiet, vite épuisé, nous découvrons un vital calme et puissant, ce que Sri Aurobindo appelle le vital vrai, un vital qui contient l'essence même de la force de vie, sans toutes ces excroissances sentimentales et douloureuses. Nous entrons dans un état de concentration tranquille, spontané, comme peut-être la mer sous le jeu des vagues. Et cette immobilité fondamentale n'est pas une atonie nerveuse, pas plus que le silence mental n'est un engourdissement cérébral, c'est une base d'action.